Chapitre 18 Un abîme sous le bonheur d'Esther. Avant de se rendre chez Esther, Lucien devait aller à l'hôtel de Grandlieu, passer les 2 heures qui rendaient Mademoiselle Clotilde Frédérique de Grandlieu la fille la plus heureuse du faubourg Saint-Germain. La prudence, qui caractérisait la conduite de ce jeune ambitieux, lui conseilla d'instruire aussitôt Carlos Herrera de l'effet produit par le sourire que lui avait arraché le portrait d'Esther, tracé par le baron de Nucingen. L'amour du baron pour Esther et l'idée qu'il avait eue de mettre la police à la recherche de son inconnue étaient d'ailleurs des événements assez importants à communiquer à l'homme qui avait cherché sous la soutane l'asile que jadis les criminels trouvaient dans les églises. Et de la rue Saint-Lazare, où demeurait en ce temps le banquier, à la rue Saint-Dominique, où se trouve l'hôtel de Grandlieu, le chemin de Lucien le menait devant son chez-soi du quai Malaquais. Lucien trouva l'abbé fumant son bréviaire, c'est-à-dire culottant une pipe avant de se coucher. Cet homme, plus étrange qu'étranger, avait fini par renoncer aux cigares espagnols qu'il trouva trop doux. « Ceci devient sérieux, répondit l'abbé quand Lucien lui eut tout raconté. Le baron, qui se sert de louchard pour chercher la petite, aura bien l'esprit de mettre un record à tes trousses, et tout serait connu. Je n'ai pas trop de la nuit et de la matinée pour préparer les cartes de la partie que je vais jouer contre ce baron, à qui je dois démontrer, avant tout, l'impuissance de la police. Quand notre loup Servier aura perdu tout espoir de trouver sa brebis, je me charge de la lui vendre, ce qu'elle vaut pour lui. »
Vendre Esther ! S'écria Lucien, dont le premier mouvement était toujours excellent.
Tu oublies donc notre position ! S'écria l'abbé.
Lucien baissa la tête.
Plus d'argent, reprit le faux prêtre, et 60 000 francs de dettes à payer. Si tu veux épouser Clotilde de Grandlieu, tu dois acheter une terre d'1 000 000 pour assurer le douaire de ce laideron. Eh bien, Esther est un gibier, après lequel je vais faire courir ce loup Servier de manière à le dégraisser 1 000 000. Ça me regarde.
Esther ne voudra jamais.
Ça me regarde.
Elle en mourra.
Ça regarde les pompes funèbres, d'ailleurs, après.
S'écria ce sauvage personnage en arrêtant les élégies de Lucien par la manière dont il se posa.
Combien y a-t-il de généraux morts à la fleur de l'âge pour l'empereur Napoléon ?
Demanda-t-il à Lucien après un moment de silence.
On trouve toujours des femmes. En 1821, pour toi, Coralie n'avait pas sa pareille. Esther ne s'en est pas moins rencontrée. Après cette fille viendra, sais-tu qui ? La femme inconnue. Voilà de toutes les femmes la plus belle. Et tu la chercheras dans la capitale où le gendre du duc de Grandlieu sera ministre et représentera le roi de France. Et puis dis donc, monsieur l'enfant, Esther en mourra-t-elle ? Enfin, le mari de mademoiselle de Grandlieu peut-il conserver Esther ? D'ailleurs, laisse-moi faire, tu n'as pas l'ennui de penser à tout ça, ça me regarde. Seulement, tu te passeras d'Esther pour 1 semaine ou 2, et tu ne t'en iras pas moins rue Thébout. Allons, va roucouler auprès de ta Grandlieu. Tu retrouveras Esther un peu triste, mais dis-lui d'obéir. Il s'agit de notre livret de vertu, de nos casques d'honnêteté, du paravent derrière lequel les grands cachent toutes leurs infamies. Il s'agit de mon beau moi, de toi qui ne dois jamais être soupçonné. Le hasard nous a mieux servi que ma pensée qui, depuis 2 mois, travaillait dans le vide.
En jetant ces terribles phrases 1 à 1 comme des coups de pistolet, le faux abbé s'habillait et se disposait à sortir.
« Ta joie est visible !» s'écria Lucien. « Tu n'as jamais aimé la pauvre Esther, et tu vois arriver avec délice le moment de t'en débarrasser.
Tu ne t'es jamais lassé de l'aimer, n'est-ce pas ? Eh bien, je ne me suis jamais lassé de l'exécrer.
mais n'ai-je pas agi toujours comme si j'étais attaché sincèrement à cette fille, moi qui, par Asie, tenais sa vie entre mes mains? Quelques mauvais champignons dans un ragoût, et tout eût été dit. Mademoiselle Esther vit, cependant. Elle est heureuse, parce que tu l'aimes. Ne fais pas l'enfant. Voici 4 ans que nous attendons un hasard, pour ou contre nous. Eh bien, il faut déployer plus que du talent pour éplucher le légume que nous jette aujourd'hui le sort. Il y a dans ce coup de roulette du bon et du mauvais, comme dans tout. Sais-tu à quoi je pensais au moment où tu es entrée ?
Non.
À me rendre, ici comme à Barcelone, héritier d'une vieille dévote à l'aide d'Asie.
Un crime ?
Il ne me restait plus que cette ressource pour assurer ton bonheur. Les créanciers se remuent. Une fois poursuivi par des huissiers et chassé de l'hôtel de Grandlieu, que serais-tu devenu ? L'échéance du diable serait arrivée.
Le faux prêtre peignit par un geste le suicide d'un homme qui se jette à l'eau. Puis il arrêta sur Lucien un de ces regards fixes et pénétrants qui font entrer la volonté des gens forts dans l'âme des gens faibles. Ce regard fascinateur, qui eut pour effet de détendre toute résistance, annonçait, entre Lucien et le faux abbé, non seulement des secrets de vie et de mort, mais encore des sentiments aussi supérieurs aux sentiments ordinaires que cet homme l'était à la bassesse de sa position. Contraint à vivre en dehors du monde, où la loi lui interdisait à jamais de rentrer, épuisé par le vice et par de furieuses, par de terribles résistances, mais doué d'une force d'âme qui le rongeait, ce personnage ignoble et grand, obscur et célèbre, dévoré surtout d'une fièvre de vie, revivait dans le corps élégant de Lucien, dont l'âme était devenue la sienne. Il se faisait représenter dans la vie sociale par ce poète auquel il donnait sa consistance et sa volonté de faire. Pour lui, Lucien était plus qu'un fils, plus qu'une femme aimée, plus qu'une famille, plus que sa vie. Il était sa vengeance. Aussi, comme les âmes fortes tiennent plus à un sentiment qu'à l'existence, se l'était-il attaché par des liens indissolubles. Après avoir acheté la vie de Lucien au moment où ce poète au désespoir faisait un pas vers le suicide, il lui avait proposé l'un de ces pactes infernaux qui ne se voient que dans les romans, mais dont la possibilité terrible a souvent été démontrée aux assises par de célèbres drames judiciaires. En prodiguant à Lucien toutes les joies de la vie parisienne, en lui prouvant qu'il pouvait se créer encore un bel avenir, il en avait fait sa chose. Aucun sacrifice ne coûtait d'ailleurs à cet homme étrange, dès qu'il s'agissait de son second lui-même. Au milieu de sa force, il était si faible contre les fantaisies de sa créature qu'il avait fini par lui confier ses secrets. Peut-être fût-ce un lien de plus entre eux que cette complicité purement morale. Depuis le jour où la torpille fut enlevée, Lucien savait sur quelle horrible base reposait son bonheur. Cette soutane de prêtre espagnol cachait Jacques Collin, une des célébrités du bagne, et qui 10 ans auparavant vivait sous le nom bourgeois de Vautrin, dans la maison Vauquer, où Rastignac et Bianchon se trouvèrent en pension. Jacques Collin dit « trompe la mort », presque aussitôt évadé de Rochefort qu'il y fut réintégré, mit à profit l'exemple donné par le fameux comte de Sainte-Hélène. Mais en modifiant tout ce que l'action hardie de Coignard eut de vicieux. Se substituer à un honnête homme et continuer la vie du forçat est une proposition dont les deux termes sont trop contradictoires pour qu'il ne s'en dégage pas un dénouement funeste, à Paris surtout. Car, en s'implantant dans une famille, un condamné décuple les dangers de cette substitution. Pour être à l'abri de toute recherche, ne faut-il pas d'ailleurs se mettre plus haut que ne sont situés les intérêts ordinaires de la vie ? Un homme du monde est soumis à des hasards
qui pèse rarement sur les gens sans contact avec le monde. Aussi, la soutane est-elle le plus sûr des déguisements quand on peut le compléter par une vie exemplaire, solitaire et sans action. Donc, je serai prêtre, se dit ce mort civil qui voulait absolument revivre sous une forme sociale et satisfaire des passions aussi étranges que lui. La guerre civile, que la Constitution de 1812 alluma en Espagne, où s'était rendu cet homme d'énergie, lui fournit les moyens de tuer secrètement le véritable Carlos Herrera, dans une embuscade. Bâtard d'un grand seigneur, et abandonné depuis longtemps par son père, ignorant à quelle femme il devait le jour, ce prêtre était chargé d'une mission politique en France par le roi Ferdinand VII, à qui un évêque l'avait proposé. L'évêque, le seul homme qui s'intéressa à Carlos Herrera, mourut pendant le voyage que cet enfant perdu de l'Église faisait de Cadix à Madrid et de Madrid en France. Heureux d'avoir rencontré cette individualité si désirée, et dans les conditions où il la voulait, Jacques Collin se fit des blessures au dos pour effacer les fatales lettres et changea son visage à l'aide de réactifs chimiques. En se métamorphosant ainsi devant le cadavre du prêtre avant de l'anéantir, il put se donner quelques ressemblances avec son sosie. Pour achever cette transmutation presque aussi merveilleuse que celle dont il est question dans ce conte arabe où le derviche a conquis le pouvoir d'entrer, lui, vieux, dans un jeune corps par des paroles magiques. Le forçat, qui parlait espagnol, apprit autant de latin qu'un prêtre andalou devait en savoir. Banquier du bagne, Collin était riche des dépôts confiés à sa probité connue, et forcé d'ailleurs. Entre de tels associés, une erreur se solde à coups de poignard. À ses fonds, il joignit l'argent donné par l'évêque à Carlos Herrera. Avant de quitter l'Espagne, il put s'emparer du trésor d'une dévote de Barcelone à laquelle il donna l'absolution, en lui promettant d'opérer la restitution des sommes provenues d'un assassinat commis par elle, et d'où provenait sa fortune. Devenu prêtre, chargé d'une mission secrète qui devait lui valoir les plus puissantes recommandations à Paris, Jacques Collin, résolu à ne rien faire pour compromettre le caractère dont il s'était revêtu, s'abandonnait aux chances de sa nouvelle existence. Quand il rencontra Lucien sur la route d'Angoulême à Paris, ce garçon parut au faux abbé devoir être un merveilleux instrument de pouvoir. Il le sauva du suicide en lui disant « Donnez-vous à un homme de Dieu comme on se donne au diable, et vous aurez toutes les chances d'une nouvelle destinée. Vous vivrez comme en rêve, et le pire réveil sera la mort que vous vouliez vous donner. » L'alliance de ces deux êtres, qui n'en devait faire qu'un seul, reposa sur ce raisonnement plein de force, que l'abbé cimenta d'ailleurs par une complicité savamment amenée. Doué du génie de la corruption, il détruisit l'honnêteté de Lucien, en le plongeant dans des nécessités cruelles et en l'en tirant par des consentements tacites à des actions mauvaises ou infâmes qui le laissaient toujours pur, loyal, noble aux yeux du monde. Lucien était la splendeur sociale à l'ombre de laquelle voulait vivre le faux abbé. Je suis l'auteur, tu seras le drame. Si tu ne réussis pas, c'est moi qui serai sifflé, lui dit-il le jour où il lui avoua le sacrilège de son déguisement. Le faux prêtre alla prudemment d'aveu en aveu, mesurant l'infamie des confidences à la force de ses progrès et aux besoins de Lucien. Aussi Trompe-la-Mort ne livra-t-il son dernier secret qu'au moment où l'habitude des jouissances parisiennes, les succès, la vanité satisfaite, lui avaient asservi le corps et l'âme de ce poète si faible. Là où jadis Rastignac, tenté par ce démon, avait résisté, Lucien succomba, mieux manœuvré, plus savamment compromis, vaincu surtout par le bonheur d'avoir conquis une éminente position. Le mal, dont la configuration poétique s'appelle le diable, usa envers cet homme à moitié femme de ses plus attachantes séductions, et lui demanda peu d'abord, en lui donnant beaucoup. Le grand argument de l'abbé fut cet éternel secret promis par Tartuffe à Elmire. Les preuves réitérées d'un dévouement absolu semblable à celui de Séide pour Mahomet achevèrent cette œuvre horrible de la conquête de Lucien par Jacques Collin. En ce moment, non seulement Esther et Lucien avaient dévoré tout le fonds confié à la probité du banquier des bagnes, qui s'exposait pour eux à de terribles redditions de comptes, mais encore le dandy, le prêtre et la courtisane avaient des dettes. Au moment où Lucien allait réussir, le plus petit caillou sous le pied d'un de ces trois êtres pouvait donc faire crouler le fantastique édifice d'une fortune si audacieusement bâtie. Au bal de l'opéra, Rastignac avait reconnu le vautrin de la maison Vauquer. Mais il se savait mort en cas d'indiscrétion, et Lucien échangeait avec l'amant de Madame de Nucingen des regards où la peur se cachait de part et d'autre sous des semblants d'amitié. Aussi, dans le moment du danger, Rastignac aurait-il évidemment fourni, avec le plus grand plaisir, la voiture qui eût mené Trompe-la-Mort à l'échafaud. Chacun doit maintenant deviner de quelle sombre joie le faux abbé fut saisi en apprenant l'amour du baron Nucingen, et en saisissant, dans une seule pensée, tout le parti qu'un homme de sa trempe devait tirer de la pauvre Esther. « Va, dit-il à Lucien, le diable protège son aumônier. Tu fumes sur une poudrière. Incedo per ignes, répondit le faux prêtre en souriant. C'est mon métier. »